Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Les femmes n'ont pratiquement rien écrit dans la Bible, mais elles y sont bien présentes. Dans de précédents numéros de Selon les Écritures, nous avions déjà évoqué de grandes figures féminines comme Sarah, l'épouse d'Abraham, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, et Marie, la mère de Jésus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette série d'émissions sur les femmes bibliques en nous intéressant à une inconnue célèbre. On a coutume de l'appeler la pécheresse de Béthanie, ou la pécheresse pardonnée, ou encore la femme au parfum. Nous lirons ce récit dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfums. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Mais prenant la parole, Jésus lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, » répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus ? Simon répondit, « Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. » Il lui dit, « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, « Tu vois cette femme, » dit-il à Simon, « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés sont remis. » Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés ?» Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Père Alain, avant de rentrer dans ce texte de Luc, il est peut-être intéressant de noter qu'il existe trois autres évangiles qui évoquent une histoire un peu similaire, avec une femme, une pécheresse, du parfum, etc. Est-ce que vous pourriez nous clarifier un petit peu les choses ?
Alors, effectivement, ce problème que vous soulevez est un peu un cas d'école dans l'exégèse. Il se trouve effectivement qu'il y a quatre récits qui ont beaucoup de points communs. En particulier le fait qu'il y a une onction qui est faite sur la tête ou sur les pieds avec au cours d'un repas. Enfin, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a deux courants qui c'est par les exégètes, et je vous dirai un peu ma préférence. Certains courants voudraient qu'il n'y ait eu qu'un seul récit au départ, qui aurait été après interprété de façon différente, dans des périodes différentes. Ça, c'est une hypothèse. Moi, je suis plutôt partisan d'une deuxième hypothèse qui voudrait qu'il y ait deux événements différents qui se sont déroulés, c'est-à-dire que Jésus aurait eu par deux fois un versement de parfum sur ses pieds ou sur sa tête, ça dépend des évangiles, il l'aurait eu en deux occasions différentes. C'est-à-dire, la première occasion, c'est celle que nous avons avec Saint Luc, qui est très différent des autres, et la raison pour laquelle je les sépare, même s'ils ont beaucoup de points communs après dans la façon de l'interpréter, de la réécrire, la raison majeure pour moi de dire que c'est pas le même récit, c'est pas le même événement, c'est que Luc, ça se passe au moment de la vie de Jésus, sans qu'il y ait l'annonce d'une proximité de la mort de Jésus. Et donc, c'est un geste de tendresse, au fond, qu'une femme fait envers Jésus au cours d'un repas, et qui, sujet à controverse après, ça c'est Saint Luc. Tandis que dans les trois autres évangiles, aussi bien Matthieu que Marc et Jean, alors qu'ils ont des différences énormes, ça se passe à Béthanie. Il est question d'un Simon, le lépreux, dans les autres évangiles, et surtout, ça se passe au moment de la passion du Christ. C'est-à-dire, vous voyez, la différence, si vous voulez, c'est que d'un côté, c'est un geste de tendresse à interpréter, on y reviendra tout à l'heure, tandis que dans le cas des trois autres évangiles, c'est un rite de, pourrait-il, d'annonce, au fond, de anticiper de la purification pour un mort, quelqu'un qui va mourir, c'est Jésus. Donc, la signification n'est pas du tout la même, et l'interprétation n'est pas du tout la même. Et on aura l'occasion peut-être d'en dire un mot. Quand Judas se fait réprimander par Jésus, Jésus lui dit, ça c'est un acte unique qui se passe, c'est l'annonce de ma mort et le geste d'une femme en ma faveur. Donc vous voyez, deux événements, et on peut penser que le cas de Luc, après tout, pourquoi pas? Il peut y avoir eu plusieurs occasions où Jésus a été abordé par des femmes avec des gestes de tendresse. Au moins deux, me semble-t-il.
Il y a quelque chose, moi, qui m'a un petit peu troublé, c'est que effectivement, la femme, elle est anonyme dans trois des évangiles, sauf dans Jean, où elle est désignée comme étant Marie, la sœur de Lazare, qui aurait été donc présent à ce repas.
On pourrait d'ailleurs en tirer peut-être quelques conclusions. Je trouve, mais ça c'est peut-être lié à ma passion pour Saint Jean, je trouve que dans Saint Jean, la cohérence est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'il y a une séquence magnifique qui part de la mise au tombeau de Lazare et qui débouche, après sa résurrection, sur un repas qui a fait dire à des commentateurs, Origène en particulier, Lazare a fait un grand chemin, il est passé de la tombe au repas du Seigneur. Et Marie de Magdala, elle est là avec sa sœur Marthe, et c'est un récit très riche avec les trois personnages qu'on ne va pas commenter maintenant, mais ça nous montre bien que notre récit a une tonalité différente.
Alors, nous allons rentrer dans le texte de Luc. Alors, la structure est très simple, hein. Il y a trois parties. D'abord, la narration de la scène entre Jésus et la pécheresse lorsque le repas commence chez le pharisien. Ensuite, une courte parabole que Jésus adresse aux pharisiens, et enfin les commentaires de Jésus aux pharisiens et à la femme. Alors cette intrigue se déroule entièrement dans le cadre d'un repas. Je ne sais pas si on a le temps aujourd'hui de développer, vous avez fait un travail intéressant sur les repas qui est publié tous les mois dans Prions en Église, un peu un feuilleton sur les repas dans la Bible. Peut-être juste dire un petit mot sur ce que pouvait être un repas chez un notable pharisien.
Oui, peut-être, vous m'invitez à juste être bref, mais c'est assez étonnant. Moi, je suis toujours étonné, quand je lis les évangiles, de savoir, alors que Jésus est un Galiléen, méprisé par les Judéens, or, les pharisiens, manifestement, avaient plaisir à inviter Jésus à manger à leur table. Ça veut dire au moins deux choses. il se doutait quand même qu'il allait se passer des choses inattendues et parfois désagréables pour eux, mais ça veut dire qu'ils étaient fascinés par cette figure d'un Galiléen, un laïc qui n'avait pas étudié la Torah, et qu'ils étaient flattés au fond de le faire venir à leur table parce que c'était déjà un personnage qui se dégageait avec toutes ses qualités extraordinaires. Et ça, c'est, au plan humain, c'est intéressant de le remarquer.
Alors, ce qui est surprenant, c'est que la femme qui arrive, Luc la qualifie de pécheresse tout de suite, donc une femme de mauvaise vie qui arrive dans ce repas chez un notable. C'est quand même déjà un peu surprenant. Il y a même des gens qui l'ont assimilé peut-être à une prostituée. Pourquoi Luc insiste sur... Il est le seul des quatre à évoquer l'idée d'une pécheresse.
Précisément, vous versez de l'eau à mon moulin en disant cela, du fait que ce n'est pas sans doute le même récit, ce n'est pas la même femme que dans les trois autres évangiles. C'est quelqu'un de... une pécheresse, vraisemblablement une prostituée, ça existait. Vous savez, la prostitution, on dit souvent, c'est le plus vieux métier du monde, mais en Palestine aussi, il y avait des femmes prostituées. Et donc, une femme certainement de mauvaise vie, qui avait une mauvaise réputation, et qui... Alors ça, c'est peut-être ça l'intérêt, c'est son attrait, au fond, pour Jésus. Qu'est-ce qu'elle sait de Jésus? Sans doute pas grand-chose, hein, mais quand même, Jésus, il fascine autant le pharisien, pourtant, qui se méfie des gens de Galilée parce qu'ils sont toujours impurs, vu leurs pratiques, et il se méfie aussi des prostituées. Jésus, il est là et il s'adapte à toutes les situations. Et on pourrait rajouter, une chose, vous évoquiez mon travail sur les repas, une des choses qui à la fois me fascine mais qui me déçoivent un peu, c'est que les repas que nous avons dans l'Évangile sont souvent des repas un peu avortés. C'est-à-dire, on ne sait jamais ce qui... D'abord, on ne sait jamais le menu, sauf pour la fête de Pâques, et encore on a des doutes, mais parce que quelque chose arrive qui interrompt le repas. Et c'est le cas, évidemment, dans notre scène, avec cette belle scène d'une femme qui ose un geste, quand même, d'une audace, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est audacieux ce qu'elle fait.
Elle fait irruption. Alors, le texte dit qu'elle a appris que Jésus était là, et elle s'est précipitée, elle n'était pas invitée, elle fait irruption dans le repas, et là, elle ne dit rien, et on assiste à cette scène incroyable, entre elle et Jésus, pleine de tendresse et même de sensualité. On est très loin des convenances rituelles juives, j'imagine. Que peut-on dire sur le comportement très surprenant de cette femme, dans le contexte?
Si comme moi vous êtes sensible à l'actualité, on parle beaucoup de la violence sexuelle des hommes aujourd'hui contre les femmes. Il y a tout un terrain qui sort de terre, on pourrait dire, parce que cette chose est dévoilée. Ici, curieusement, c'est une femme qui provoque Jésus. Et vous le dites, et vous avez raison, il y a quelque chose d'audacieux quand même dans ses gestes. C'est très érotique, au fond, ce qu'elle fait. Elle s'approche du corps de Jésus, elle baigne ses pieds de parfum, elle les essuie avec ses pleurs. Enfin, il y a véritablement quelque chose qui dit à la fois quelque chose du corps. C'est très corporel, finalement, c'est très physique. Et en même temps, et c'est peut-être là le contraste, Ça donne une idée de la pureté de Jésus. C'est-à-dire, Jésus, la pudeur, Jésus la laisse faire, il n'en rajoute pas, il est là, il laisse faire, parce que il est touché par ce geste, mais tout ce qui pourrait être excessif, d'une certaine manière, il ne l'ouvre pas. C'est quelque chose qui est choquant en soi-même, mais Jésus... Justement parce qu'il est chaste, c'est là qu'on pourrait dire, on a là un trait très beau de la chasteté de Jésus. Cette femme, au fond, il n'y a rien de sexuel, il y a un peu d'érotique, c'est très physique, mais c'est très beau, cette démarche, et c'est unique. Hein. Qui oserait imaginer une femme qui viendrait projeter de parfum sur un prêtre pendant qu'il dit la messe? Ça serait le grand scandale, il serait éjecté de l'église. Jésus, il laisse faire.
Il laisse faire. Mais il a deviné la réprobation intérieure de Simon à son égard. Simon dit rien, mais il a deviné qu'il se posait des questions, et il lui donne une très courte parabole, qui est l'histoire du créancier qui remet leur dette à deux débiteurs. Pourquoi parle-t-il de cette parabole?
Oui, c'est vrai que ce que tu soulignes est intéressant. Jésus, il est venu invité par un ami. Et cet ami, manifestement été attaché à Jésus pour sa qualité. Et on voit bien, il a perdu ce rêve qu'il avait de Jésus. Jésus l'a déçu finalement. Et Jésus l'a compris, cette déception, et pour bien réhabiliter en quelque sorte la relation, d'abord il appelle par son nom, Simon. C'est beau, tout à coup, on ne savait pas avant, Simon, c'est le lien. Et puis, il va faire ce qu'il est habitué à faire quand il y a un obstacle devant lui, il raconte une parabole. Et la parabole, c'est le détour qui permet au fond de restaurer la situation. Alors elle est connue, mais peut-être simplement rappeler l'importance de cette petite parabole qui dit des choses simples. Hein. Un homme avait deux débiteurs, l'un lui devait beaucoup, l'autre peu. C'est facile. Lequel sera-t-il le plus aimé ? Et naturellement, il lui répond en disant celui qui a été pardonné le plus, celui qui a reçu le plus. Et du coup, la situation est changée, c'est-à-dire qu'il a compris que Jésus veut faire comprendre que cette femme, au fond, par son côté pécheur, a perçu davantage que lui sa grandeur, sa tendresse, son amour. Et donc, parce qu'elle a aimé, bien que pécheresse, elle est celle que Jésus, au fond, va le plus accueillir parce que elle est sur le chemin du salut, d'une certaine façon. Donc, c'est un récit, évidemment, très, très, très beau sur ce plan-là. Et elle est même réhabilitée, puisque Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés, va en paix ». C'est-à-dire, c'est véritablement une restauration extraordinaire qui lui est faite. Et on a l'impression que, on ne le saura pas, mais que le pharisien qui l'a invité a dû réfléchir et que ça a pu lui poser des questions sur ce Jésus étonnant, paradoxal, qui bouscule au fond les situations, qui répond à l'inattendu et qui fait pour nous de cette femme inconnue une figure magnifique de la tendresse de Dieu.
Et ce qui m'a touché, c'est que effectivement avant qu'il la l'envoie en quelque sorte avec ses péchés pardonnés, il énumère quand même un peu tous les gestes qu'elle a faits et il fait une espèce de comparaison en disant à Simon, tu as pas fait ça, elle a fait ça, tu n'as pas fait ça.
Et c'est très à la fois très direct, très narratif au fond. Jésus a perçu la beauté de sa tendresse et pourtant cet homme l'avait invité quand même. Simon, c'était pas rien d'avoir invité Jésus, mais il met en parallèle au fond peut-être la façon de s'attacher à lui qui peut être minimale, c'est son cas, ou maximale pour quelqu'un qui, parce qu'il est pécheur, reconnaît en Jésus plus qu'un prophète, ce que faisait Simon, mais quelqu'un qui vient de Dieu et qui se manifeste à lui comme un Dieu. Tout le monde est révolté, même à la fin. Les gens s'étonnent, comment peut-il pardonner les péchés ? Va en paix, c'est véritablement une restauration magnifique qui est donnée à cette femme pécheresse et qui devient pour nous un exemple, au fond, dans notre fidélité, même si nous sommes des pécheurs, alors que nous sommes, nous aussi, des pécheurs.
Est-ce que les gestes qui sont posés, qui sont un peu des gestes de purification, le parfum, essuyer, laver, etc., est-ce que c'était pas finalement une manière pour Jésus de revisiter le rituel juif traditionnel en lui donnant une autre signification ?
Oui, sauf que je ne pense pas qu'il y avait ce rite, en particulier au cours de repas, c'est-à-dire c'est un rite qui est tout à fait unique. Je pense qu'il faut garder peut-être l'idée de l'unicité, c'est-à-dire ce qu'elle fait à Jésus, on ne peut pas le refaire, parce que c'est unique, parce que Jésus est unique, si vous voulez. Il est unique. Et donc, ce qu'il a fait nous fait comprendre qui il est, dans son unicité, dans sa grandeur, dans sa dignité. Et cette femme, parce qu'elle était pécheresse, elle avait un regard beaucoup plus profond que celui que nous avons, et elle a reconnu, elle a voulu montrer, à travers sa tendresse, au fond, au cours de ce repas, la grandeur de cet homme qui est là. Et c'est elle qui a eu cette lucidité qui fait dire par Jésus, ta foi t'a sauvé. Magnifique.
Et il l'a fait aussi changer de statut. Elle n'est plus la pécheresse, elle est une disciple.
Et du côté de Jésus, elle n'a jamais été la pécheresse. C'est-à-dire, c'est le narrateur qui la qualifie de la pécheresse, Simon sans doute aussi, mais pour Jésus, ça n'est pas une pécheresse, c'est une femme à qui Dieu ouvre le chemin de la paix et de la fraternité.
Cela dit, les convives, il y a certains convives qui ronchonnent quand même un peu, hein, ils ne sont pas très contents de ce que fait Jésus.
Ben c'est logique. Jésus vient nous dire un Dieu scandaleux, un Dieu qui est choquant, parce qu'il ne respecte pas les rites, il ne respecte pas la rigueur des purifications. Cette femme aurait dû passer par des rites de purification, elle ne le fait pas. Mais elle est purifiée dès son attitude, justement, en faisant ce qu'elle fait à Jésus, elle devient une croyante dans la pureté.
Merci Père Alain, nous voici arrivés donc au terme de cette émission consacrée à l'une des grandes figures féminines de la Bible, la pécheresse au parfum, qui a vécu donc cette rencontre bouleversante avec Jésus. Merci pour nous avoir aidés à redécouvrir ce texte magnifique. Merci à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site radioprésence.com. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Selon les Écritures. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.